RCF.
Bonjour et merci d'être fidèle à l'écoute de cette nouvelle émission Parole d'évêque avec Mgr Xavier Mal. Mgr, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toujours évêque de Gap-en-Brun et je vous rappelle que nous sommes le vendredi 29 mars et que nous sommes en direct, alors ce qui veut dire que vous pouvez nous appeler au 04 92 43 88 59, 04 92 43 88 59 pour nous poser des questions. Alors, nous allons bien sûr, Monseigneur, aborder deux sujets dans cette émission, deux sujets principaux, la Semaine Sainte et la fête de Pâques. Mais avant, la semaine dernière, vous étiez à Lourdes pour une nouvelle assemblée plénière des évêques de France. Vous nous aviez annoncé lors de la dernière émission les principaux sujets abordés. Est-ce que ça a été une assemblée plénière assez difficile ou est-ce que l'ambiance était constructive?
Ah non, c'était dense et constructif, mais dense. On a beaucoup travaillé, effectivement, parce qu'il y avait beaucoup de sujets différents aussi. Mais je pense que le résultat est magnifique, en fait. Le résultat est magnifique. Alors, on a à la fois poursuivi des sujets anciens qui mûrissent petit à petit, et puis on a lancé des nouveaux sujets ou fait des nouvelles étapes. Donc, dans les sujets anciens qui aboutissent, là, c'est vraiment un aboutissement, c'est la transformation de la Conférence des évêques de France. C'est un projet qui est fait pour à la fois être plus souple, mais aussi moins cher.
C'est ça.
Pour que ça coûte moins cher aussi. Voilà, donc on a voté tout ça. Et là, cette semaine, on a reçu les évêques, on a reçu la demande. Maintenant, il faut qu'on fasse nos demandes dans quel conseil ou commission on va travailler, puisqu'on remet tout à plat. On a tout remis à plat et donc on fasse les propositions. Jusqu'à présent, j'étais dans le conseil de la communication, mais ça fait 6 ans que j'y suis. Donc, il est temps que je passe à d'autres choses.
Vous avez un autre souhait?
Je n'ai pas encore vraiment choisi. Et puis, on fait des propositions. Après, c'est le conseil permanent qui répartit comment il peut. Voilà. Donc, je ne vous dirai même pas si j'avais déjà choisi lequel, puisque si ça se trouve, ce ne sera pas celui dans lequel j'aboutirai. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui aboutit. On a aussi fait un bilan d'une première année de fonctionnement du tribunal pénal canonique national. Alors c'est quoi ce tribunal qui est un tribunal interdiocésain, on pourrait dire, au niveau de la France? Ça concerne un certain nombre de délits qui auparavant étaient traités au niveau des officialités de province, donc pour nous à Marseille. Et on a fait le choix de nous équiper d'un tribunal national avec des professionnels à plein temps sur ce sujet-là. Alors, donc c'est un tribunal d'église, hein, c'est pour les délits à l'interne de l'église qui ne viennent pas concurrencer les procédures civiles, évidemment. Hein, notre première, quand il y a une personne se dit victime, évidemment, on la dirige vers le procureur et on a pour nous un protocole avec les procureurs locaux. Donc mais les gens n'imaginent pas qu'on a une justice propre de l'église aussi. Alors cette justice propre de l'Église, elle est en gros en deux parties, les mineurs ou les majeurs. Tout ce qui concerne les mineurs, cela remonte à Rome directement. C'est le dicaster pour la doctrine de la foi qui suit ces questions-là. Mais quand ce sont des majeurs, des abus sur majeurs, eh bien ça revient au tribunal pénal national qui gère ça. Et le tribunal pénal national peut aussi gérer des délits financiers. Par exemple, vous avez un compteur de quête qui part avec la quête. Eh bien, non seulement il peut passer au tribunal civil, mais aussi au tribunal ecclésial, tribunal canonique, et avoir une condamnation, devoir réparer financièrement aussi, etc. Voilà, donc on n'imagine pas que finalement tous les baptisés sont justiciables.
Quelle est la personne à la tête de ce tribunal? Est-ce que ça a été défini?
Alors, il y a plusieurs personnes à la tête, comme tout tribunal. Il y a un président du tribunal, le père Albert Jacquemin, je crois que c'est ça son nom, qui est un prêtre de Paris. Et il y a un promoteur de justice, qui est dans un tribunal civil, on appellerait ça un procureur de la République. Donc, on appelle le promoteur de justice, qui promeut la justice, quoi, qui lui est un prêtre de, du diocèse de, enfin, de l'oratoire, la congrégation de l'oratoire dans le diocèse de Nancy. Puis après, il y a aussi des, il y a différents juges, il y a des juges civils aussi, enfin, civils laïcs plus exactement, et puis des juges prêtres, il y a un mixte entre les deux, hommes et femmes. Voilà, donc c'est un tribunal complet qui monte en, j'allais dire, en compétence petit à petit, qui augmente le nombre de juges ou d'avocats. Ou de, voilà, c'est toute une structure à monter. Et pour nous évêques, c'est un, une vraie aide parce qu'ils sont là aussi pour nous conseiller. Vous voyez, donc on a une question, ben voilà, est-ce que telle chose, c'est un délit, voilà. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement les prêtres, ça concerne pas seulement des délits ou des crimes commis par des prêtres, ça concerne des délits ou des crimes commis par des laïcs aussi. Hein.
Dans le cadre de l'Église.
Dans le cadre de l'Église, oui. Donc, les, on sait que dans le rapport de la CIAS, par exemple, je crois que c'était un tiers des délits relevés par la CIAS qui étaient commis par des laïcs, hein, dans le cadre de l'Église. Mais pour les, et pour les délits sur majeurs ou les délits financiers ou autres types de délits, il y a aussi évidemment un certain nombre de laïcs, de baptisés qui peuvent commettre ces délits et donc qui sont justiciables, quoi. Voilà, donc ça c'est une grande satisfaction parce qu'on a quand même galéré pour trouver les bonnes formulations, les comment faire, etc. Et ça, ça avance bien.
Et il sera effectif
Il travaille depuis un an. On a eu le premier bilan, là, on a eu les deux têtes nous présenter leur bilan, donc il est effectif. Alors on a avancé aussi avec la présidente de l'INIR, Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation, qui nous a présenté un peu, parce qu'elle arrive au bout de sa mission, de son mandat. Et en fait, elle nous a dit que, elle n'était pas arrivée au bout de son mandat. Il y a encore un certain nombre de personnes victimes qui n'ont pas pu être écoutées, qui ont fait un signalement, qui se sont signalées, qui n'ont pas pu être écoutées. Parce que c'est aussi une structure qui est montée, c'est une structure qui est inédite, en fait, dans l'histoire de la, du droit, même en France. Et d'ailleurs, elle nous partageait que, parce que c'est une magistrate de haut niveau, que ses collègues magistrats regardent avec intérêt ce qui se passe dans cette structure de l'Église. Parce que c'est vraiment de ce qu'on appelle l'ordre de la justice restaurative, comment restaurer, hein, les personnes. Et donc elle n'a pas fini, donc on a prolongé sa mission. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est jusque juin 2006 avec un accueil, je pense, des signalements encore pendant quelques temps là. Voilà. Et après, on passera à quelque chose d'autre. Alors ça, c'est pas encore défini. On a évoqué plusieurs hypothèses qui sera pérenne. Parce que malheureusement, on a beau faire des formations, on a beau faire mettre plein d'éléments de prévention de tous ces abus, on sait malheureusement que la nature humaine étant ce qu'elle est, il restera toujours des abus. Donc il faudra les traiter d'une manière, et non pas les mettre sous le tapis comme on faisait dans le temps, quoi. Donc après, il faudra qu'on mette en place une structure pérenne. Est-ce qu'elle s'occupera à la fois des mineurs et des majeurs? Tout ça, c'est pas décidé. Il y a des choses communes, il y a des choses différentes. Voilà, en tout cas, on avance bien, vous voyez, on avance bien et c'est pour nous une grande satisfaction. Et les personnes victimes, alors certaines se plaignent que ça va pas assez vite, etc., on le comprend bien, mais celles qui sont accompagnées par l'INIR en particulier témoignent combien c'est positif pour elles, quoi. Et elles restent notre priorité, quoi.
Il y avait un gros sujet également sur le diaconat permanent.
Oui, on a beaucoup travaillé là-dessus, puisque ce sont les 60 ans. On rappelle, hein, que le 1er mai, ça sera dans une paroisse à Aix, au niveau de la province, un rassemblement de provinces pour les diacres, leurs épouses, les curés qui ont des diacres. En principe, je devrais y aller aussi. Et puis le 28 septembre, je dis ça de mémoire, le 28 septembre à Embrun, rassemblement diocésain autour de nos diacres, tout le monde est invité, notez-le sur vos tablettes aussi. Donc on a eu, c'était en deux parties, une première partie qui était un enseignement par l'archevêque d'Aix et Arles, qui est un théologien de l'Église, hein, un ecclésiologue, et c'était très beau ce qu'il nous a partagé, je serais incapable de vous le redonner, c'était profond, mais j'ai pris des notes. Il faut que je retravaille un peu, j'ai récupéré son topo, il faut que je le retravaille. Mais pour moi, en tout cas, ça m'a bien renouvelé dans ma perception de la place des diacres, parce que c'est toujours un peu la difficulté, la place des diacres dans l'Église. Ils sont pas prêtres, ils sont plus laïcs, voilà, donc où est-ce qu'ils sont, quoi. Et ça m'a bien aidé, en gros, il y a ce triptyque évêque, prêtre et diacre à bien placer, et voilà, je pense qu'on va faire des beaux progrès là-dessus. Et puis la deuxième partie, c'était par atelier, donc chaque évêque, on choisissait un atelier, il y avait des diacres dans l'atelier, hein, qui étaient invités, et moi j'avais choisi l'atelier sur l'interpellation au diaconat, parce que je me désole qu'actuellement, dans le diocèse de Gap, nous n'ayons pas de personnes en discernement direct ou en formation, on va dire. On a une personne en discernement, mais on n'a pas de personnes en formation, qui sont entrées en formation pour le diaconat. Et donc, comment interpeller nos amis auditeurs? J'en profite.
Bien sûr.
Alors, l'interpellation au diaconat, c'est environ pour des personnes qui ont plus de 30 ans, ça c'est sûr, entre 30 et 45 ans, voire 50 ans. Mais on souhaite encore des gens en activité professionnelle, parce qu'il y a pas mal d'années de formation avant de devenir diacre, 5-6 ans de formation. Et puis après, ils ont aussi une belle mission dans leur lieu de travail. Donc c'est important pour, il me semble, d'avoir une partie de sa vie diaconale quand on est encore en activité, et pas seulement quand on est à la retraite. Voilà, donc on est, j'allais dire, attentif un peu aux figures de chrétiens que le Seigneur pourrait appeler à diacre, parce que je crois que c'est un vrai appel du Seigneur pour ce ministère diaconal.
Vous avez parlé également des séminaristes et des séminaires et des ministères laïcs.
Oui, parce que ça aboutit, c'est aussi une chose qui a abouti. On a un beau document maintenant de la conférence des évêques, à la fois pastorale, théologique, sur ce que le pape a mis en place au niveau international. Et il demandait que chaque conférence des évêques décline un peu dans son propre pays, en fonction de chaque culture. Donc c'est pour les trois ministères de lecteur, d'acolyte ou de catéchiste. Alors, sincèrement, on a un peu de mal à voir où tout ça va aller. On va y aller doucement, petit à petit. Je pense aussi que c'est une belle intuition, mais qu'il faut qu'on avance petit à petit. Donc, on va reprendre tout ça nous-mêmes. Je l'ai déjà travaillé en conseil épiscopal, en conseil presbytéral. Maintenant que le texte est définitif, on va le reprendre à nouveau et voir comment on avance sur le diocèse. Puis, on a travaillé sur les séminaristes, ou plus exactement les séminaires, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, on a trop de séminaires. On a déjà fermé les années précédentes, mais il faudra sans doute avoir le courage de fermer d'autres séminaires, parce que pour d'une part avoir assez de formateurs, et d'autre part qu'ils soient assez nombreux, les séminaristes, pour être libres en même temps. Parce que le temps de séminaire, c'est un discernement à la fois de l'autorité, du côté des autorités ecclésiales, de l'évêque, mais à la fois du jeune. Et si le jeune est un petit groupe de 5, 6 ou 10 ou 15, un séminaire à 15, est-ce que le jeune est libre, quoi? Voilà.
Vous dites le courage de fermer,
parce que
c'est à contre-cœur.
Et voilà, c'est toujours à contre-cœur hein, quand on ferme des séminaires, mais il faut faire autrement. Voilà. Donc il y a des tas d'interrogations là-dessus. Donc là, les choses sont pas abouties, c'est une étape. Vous voyez, à la fois des choses qui aboutissent et des choses où on fait progresser petit à petit. On voit que de session en session, on y revient dessus, on remet sur le travail, entre les sessions on travaille et on avance. Ouais.
Alors, Monseigneur, vous nous aviez aussi parlé de votre réflexion autour des radios chrétiennes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire...
Je suis curieux que ça vous intéresse. Ouais. Je suis surpris que ça vous intéresse.
Vous pouvez nous en dire plus?
Oui. Donc, il y a eu... En fait, on est bousculé par la technologie. On est bousculé par la technologie. Actuellement, sur Gap, nos auditeurs nous entendent soit par la bande FM, soit sur Internet. Il faut avoir des postes Internet qui captent Internet. Mais ils ne nous entendent pas encore sur le DAB, ce qu'on appelle la radio numérique terrestre, comme il y a eu la télé numérique terrestre. Nos auditeurs se souviennent qu'on a eu un moment, un passage, on a dû changer nos râteaux de télé, là.
Oui.
Ou alors des box Internet, ou changer les râteaux, ou mettre des petits appareils, etc.
Et on s'y est fait. Donc, à cette nouvelle
technologie. On s'y est fait. Donc là, il y aura sans doute un passage qui sera sans doute facilité parce que toutes les voitures au jour d'aujourd'hui sont produites avec des autoradios qui reçoivent le numérique terrestre. Donc le numérique terrestre, il est organisé sur trois niveaux. Il y a une plaque nationale, c'est les termes du gouvernement, une plaque nationale. Et la télévision KTO a soumissionné et a été choisie. Alors qu'il y a 2-3 ans, on avait soumissionné aussi et aucune radio catholique n'avait été acceptée. Donc là, à la fois, on est heureux d'être accepté là-dessus. Et puis en même temps, ça bouscule un peu tout le monde, quoi. Donc au niveau national, donc sur les autoroutes par exemple, j'aurai KTO Radio, vous pourrez suivre sur les futures autoradios de vos futures voitures. Après, il y a des plaques régionales, de grandes régions. Alors nous, on ne sait pas trop comment ça sera, parce qu'on sera avec Grenoble et pas avec Marseille. On travaille avec Marseille pour l'instant, donc on a encore ces interrogations. Et puis il pourra peut-être rester des plaques vraiment très locales. Alors, voyez, pour nous, à Gap, on a plein d'interrogations. Jusqu'à quand va durer la FM? Est-ce que ces plaques locales sont possibles pour nous? Voilà, plein d'interrogations.
On est en réflexion.
Voilà. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a fait un audit avec des professionnels de la radio, des professionnels qui ont écouté toutes les équipes des radios chrétiennes, de différents types de radios chrétiennes qu'il y a. Mais ce sont des professionnels des radios laïques, si vous voulez, qui nous ont aidés, qui nous ont amené le regard extérieur. Et c'est toujours intéressant d'avoir un audit extérieur, parce que quand on est plongé dans son micro,
on voit plus.
Donc, ce niveau-là, au niveau de la radio. Après, mais je crois que la plus belle des idées, suite à ce rapport qu'on a écouté, et on a donné notre accord là-dessus, c'est d'avoir une plateforme numérique commune. à toutes les radios chrétiennes, la télé, qui soit multicanaux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois KTO, la télé, mais aussi les radios locales, mais aussi la radio nationale. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, notamment dans les jeunes générations, n'écoutent pas la radio toute la journée, mais se créent leur radio à la demande. C'est-à-dire se créent avec des podcasts, s'enregistrent des podcasts, et quand ils sont en voiture ou chez eux, en faisant leur repassage ou autre, ils se passent les podcasts. Donc ils se créent une radio. Et l'idée, c'est que, bah voilà, une émission que vous créez ici à Gap, bah, elle est montée sur cette plateforme, et avec des moteurs de recherche, tout d'un coup, quelqu'un tombe dessus.
Ce qui existe aujourd'hui.
Ce qui existe déjà un peu, mais oui. Qui va être développé pour pas seulement RCF là, mais qui serait pour l'ensemble des radios, et y compris la télé. Voyez. Et donc, moi, je crois que c'est la bonne idée là-dessus. Et puis après, alors, c'est public maintenant. Il y a, les bancs ont été publiés. Il y a un mariage entre Radio Notre-Dame et RCF. Et j'avoue que nous, les évêques, on est très heureux là-dessus. Et on n'y est pour rien. C'est-à-dire que ce sont les dirigeants de RCF National et de Radio Notre-Dame qui se sont rencontrés. Alors, on se voile pas la face, c'est aussi pour faire des économies. Mais les difficultés économiques, elles nous aident à la communion. Vous voyez, ce sont souvent deux réseaux qui ont été un peu concurrents. Et je trouve que c'est très beau de travailler ensemble.
Alors aujourd'hui, il y a déjà une collaboration de 6 heures, plus de 6 heures d'émission chaque semaine.
Donc et après, ce sera presque 20 heures, je crois, les 4 heures locales, à peu près, quoi. Et surtout, l'idée, c'est après, petit à petit, de développer. Par exemple, pour les JMJ cet été, vous étiez déjà en radio commune avec Radio Notre-Dame, RCF et Radio Notre-Dame, mais pas encore avec KTO. Et nous, on pousse, on se dit, bah voilà, il y a un plateau KTO, c'est pas compliqué de faire de la radio et de la télé, c'est pas le même média, mais que les mêmes équipes puissent faire les deux, si vous voulez, avec des formations. Et donc, d'envoyer une seule équipe pour ces grands événements internationaux, par exemple, pour réduire les coûts. Et surtout pouvoir couvrir tous ces événements. Oui. Donc, ça ne peut être qu'un plus. Donc, on avance aussi. Donc, c'est lancé. La balle est lancée. On va voir comment elle est reprise par les uns et les autres. Et en tout cas, c'est sûr que la technique nous pousse à aller de l'avant, quoi.
Il faut s'adapter.
Il faut qu'on s'adapte à la technique, à la numéro, qu'on appelle ça la digitalisation de toute notre vie, en fait. Ouais.
Alors, dans les projets aussi, le Jubilé 2025, vous en avez parlé également ?
On en a parlé, en particulier avec un petit topo, c'est intéressant, sur un mot, vous savez, qui a fait jaser quand on a changé le missel, le mot consubstantiel. Quand on a changé de même nature à consubstantiel. Je ne vais pas vous faire un cours de théologie là, mais en tout cas, c'est un mot qui est beaucoup plus juste que de même nature. Et parce que vous voyez, on est de même nature, vous et moi, mais on n'est pas consubstantiels. Donc là, par contre, Dieu le Père et Dieu le Fils sont non seulement de même nature, mais consubstantiels aussi, la même substance. Voilà. Et tout ça, ça a été décidé au concile de Nicée en 325. C'est pas d'hier, quoi. Or, vous calculez, 2025-325, on a donc fêté les 1700 ans. Mmh. Et le pape est en train de faire préparer un document, parce qu'il s'appelle la Commission théologique internationale, sur justement les apports de ce concile de Nicée. Et l'un des évêques, le père Mgr Étienne Veutot, évêque auxiliaire de Reims, est un théologien qui fait partie de cette commission, ce qui nous a parlé un peu un état des lieux des travaux de cette commission. C'était passionnant. Alors on a plongé dans la Trinité, vous voyez. Et c'est un continent magnifique. Voilà, donc on va fêter ça aussi en 325 et on espère la province pouvoir emmener les prêtres du diocèse. On espère les prêtres emmener en province, emmener les prêtres du diocèse en pèlerinage à Nicée, sur les lieux des premiers conciles œcuméniques. Ouais, voilà, on va voir si on y arrive. En tout cas, c'est un souhait de pouvoir emmener les prêtres du diocèse de Gap et toute la province en pèlerinage pendant une semaine là-bas.
Donc on a bien compris que ces 3 jours, c'est donc à Lourdes étaient.
Alors trois jours et demi, et puis plus le voyage, c'était bien dense, ouais, c'était bien dense, mais magnifique. On est toujours heureux de se retrouver aussi. Hein.
Alors je suppose qu'entre évêques aussi d'autres sujets sont abordés entre vous, peut-être aussi sur la loi sur la fin de vie. Est-ce que c'est l'occasion peut-être de parler de votre lettre pastorale, Monseigneur ?
C'est ça, tout à fait. Les auditeurs vont recevoir normalement dans leur paroisse ce week-end une lettre pastorale qui s'appelle « Le Christ, mon espérance », qui est un message pascal. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des messages pascal. Et là, il est un peu particulier. Il est sur un sujet difficile qui est la fin de vie. Parce que on en a déjà parlé, le gouvernement a fait des annonces concernant l'euthanasie et le suicide assisté. Et il me semble qu'il faut avoir une parole un peu incisive. On l'a eu à Lourdes. On a aussi voté un texte qui est disponible aussi sur le site du diocèse qui s'appelle ne dévoyons pas la fraternité, qui est un mot qui est utilisé selon notre sens à contresens par le président de la République. Ne dévoyons pas la fraternité. Et j'ai voulu prendre un texte complémentaire un peu incisif. Donc je dis à nos auditeurs, lisez-le. Et puis si ça vous mâche un peu, eh bien contactez-moi. Hein, contactez-moi ou contactez vos curés.
Ça a pour but de bousculer un petit peu.
Ça a pour but un peu de faire se poser des questions et de faire réfléchir. Voyez, c'est-à-dire que en gros que nous ne nous fassions pas former par les médias, qui la plupart sont à 99% pour l'euthanasie. Voyez, mais que voyez, je prends trois mots par exemple. Mon texte, il est en deux parties. Une première partie où je prends trois mots. Je considère que le projet du gouvernement est une tromperie, une régression et un engrenage. C'est un peu cash, hein.
Oui.
On est d'accord. Voilà. Donc allez voir pourquoi je dis ça. Et après, on pourra en reparler. Mais après, je vais plus loin en donnant trois mots positifs. Vous voyez, j'invite d'abord à offrir tout ce qu'on a vécu dans ce carême, tous nos efforts de carême, toutes nos souffrances, offrir tout ce qui n'est pas agréable. On l'offre au Seigneur pour qu'il en fasse du bien par rapport à ce projet-là. Ensuite, j'invite à se former, puis enfin à témoigner de la beauté de la vie. Parce que c'est finalement ça. Vous voyez, c'est pas un secret, je vais enterrer une de mes grandes tantes mercredi prochain, 96 ans, je crois, de mémoire. Elle aurait dû mourir depuis longtemps. Elle a eu plein de cancers d'affilée. C'est une miraculée à chaque fois. Et j'allais dire, malgré toutes ces maladies, tout ça, c'était une femme qui rayonnait de la vie, quoi, qui avait une joie de vivre et qui avait une telle joie de réunir sa famille. Elle avait beaucoup d'enfants, qui réunissait toute sa famille, etc., qui avait une telle joie là. Vous voyez, donc je crois, comme chrétien, c'est ça, c'est un peu ça le message. On doit aussi rayonner de la joie de vivre. La vie, elle est pas facile, on le sait, chacun d'entre vous, vous et moi, et elle est pas facile, mais elle est belle, quoi. C'est un beau cadeau, la vie. Et quand quelqu'un part, on sait que, bah oui, il va nous manquer quelque chose. Donc on voit bien que la vie est belle, quoi. Donc profitons d'ailleurs des gens, nos anciens qui sont là.
C'est peut-être l'occasion de... À quel moment peut-on discuter, par exemple, de cette lettre pastorale, Monseigneur ? À la fin des messes, bien sûr, que
oui,
vous
puis
présidez.
Prenez rendez-vous avec vos curés, si voilà. C'est vraiment question. Parce que c'est des choses qui nous touchent tous, la fin de mort. On a tous accompagné nos parents, quoi. La mort, la fin de vie, on a tous accompagné nos parents, on s'est tous posé ces questions-là. Et donc, voilà, il y a aussi des personnes qui m'ont écrit après, parce que la lettre commençait à diffuser, qui me témoignaient que, bah, elle est persuadée que son père a été euthanasié, vous voyez, ou sa maman plutôt a été euthanasiée, alors que les enfants voulaient pas du tout. Voilà. Donc, tout ça, c'est des questions et c'est des douleurs. Donc, c'est bien d'en parler, soit avec moi, soit avec votre curé, localement.
Et c'est la bonne période, en cette période de fête de Pâques, de la Semaine Sainte, Monseigneur. Est-ce que, voilà, c'est propice à parler de la mort ?
Bah oui, parce qu'on parle de la résurrection, évidemment. C'est pour ça que la vie est belle. Parce qu'on sait, nous, on sait le sens de notre vie. On sait où on va. On va vers le Seigneur, quoi.
Ouais. On peut peut-être revenir sur la messe chrismale. C'était un bon moment.
Oui, il faudra qu'on garde un peu de temps pour l'enseignement.
Vous inquiétez pas. Hein,
on gardait quelques minutes.
Oui, ouais. Oui, tout à fait.
La messe chrismale, c'était un très beau moment. D'une part, oui, il y avait une paroissienne, il y avait comme une onction aussi pendant cette messe chrismale. C'était très beau. Et la cathédrale d'Embrun, elle est finalement assez petite. Et moi, j'ai senti ça vraiment quand tous les prêtres sont montés dans le chœur. On était vraiment très serrés dans le chœur, là, tous les prêtres. Et c'était magnifique. Donc, c'est la messe où on bénit les saintes huiles. Et ce qui était beau aussi, c'est que cette année, un peu comme dans tous les diocèses, on a beaucoup de catéchumènes. On est passé à 11 catéchumènes. Alors, ça paraît pas, on était à 8, mais proportionnellement, c'est quand même une belle augmentation de passer de 8 à 11. Et donc, c'est l'huile, notamment l'huile des baptêmes, du Saint-Crème pour le baptême, qui va être utilisée la nuit de Pâques. Et moi, je vais avoir la joie, samedi saint, demain soir, de baptiser, j'ai un trou, je sais plus si c'est 2 ou 3 sur Gap, vous voyez. Mm-hmm. Donc, c'est magnifique tout ça, quoi.
Juste avant l'enseignement, on va parler de la journée de notre père que vous allez prêcher à Laragne.
Voilà, je continue les retraites dans le cadre de l'année de la prière. Je continue les retraites sur notre père parce que le pape nous a demandé d'approfondir cette prière. Et donc, là, j'ai fait cette semaine, samedi dernier, Gap, puis Briançon dimanche. Et là, donc, c'est Laragne très bientôt. Puis après, il y aura la Saulce. J'ai déjà fait Vaine et il y aura aussi Saint-Bonnet, je sais, voilà, une série, donc c'est une journée entière sur le Notre Père. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à y participer. Je crois que les échos de ceux qui ont participé, les précédentes, sont bonnes. Et alors, à ne pas confondre avec les écoles de prière qui sont menées dans 3 hauts lieux spirituels du diocèse. Donc bientôt, il va y avoir le même date d'ailleurs
à Rosan. De Rosan.
Une école avec la prière, apprendre à prier avec la liturgie. Oui. Après, il y aura au Notre-Dame-du-Lot, apprendre à prier avec la Sainte Vierge et avec Benoît. Et puis, il y aura à l'abbaye de Boscodon, apprendre à prier avec Saint-Dominique, puisque ce sont des dominicains qui tiennent l'abbaye de Boscodon.
Allez, on garde un petit moment d'enseignement, parce que c'est précieux dans cette émission, avec le pape François et son texte, c'est la confiance.
Voilà, vous êtes une merveilleuse petite lettre du pape François sur une des saintes françaises que nous aimons bien, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse de Lisieux et de la sainte Face. Ouais. Alors, on est arrivé au paragraphe 38, si je ne me trompe pas, intitulé « Au cœur de l'Église ». Oui, Thérèse, la petite Thérèse a été héritée de sainte Thérèse d'Avila, qu'on appelle la grande Thérèse, un grand amour de l'Église, et a pu atteindre les profondeurs de ce mystère. On le voit dans sa découverte du cœur de l'Église. Dans une longue prière à Jésus, qui date du 8 septembre 1896, elle se confie au Seigneur qu'elle est animée d'un immense désir, d'une passion pour l'Évangile. Elle cherche sa place dans l'Église et qu'aucune des vocations ne peut remplir le désir de son cœur. Alors après, le pape souligne que saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, l'apôtre utilise la métaphore du corps et de ses membres pour expliquer que l'Église comprend une grande variété de charismes. Le doigt n'est pas le pied, le cœur n'est pas la main. Enfin, voilà, il y a différentes missions dans l'Église, quoi. Et puis tout la suite, ça se termine par l'hymne à la charité que nous considérons. Et donc Thérèse dit, considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul. Ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, là on est, je suis en train de vous lire un des sommets de la littérature spirituelle française. Hein, vraiment. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église et que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Trois petits points. Je compris que l'amour enfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. Et alors la petite Thérèse qu'on poursuit, c'est le sommet là. Alors dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, ô Jésus mon amour, ma vocation je l'ai enfin trouvée, ma vocation c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. Voilà, voilà un des plus beaux textes de la vie spirituelle écrit par une Française, Thérèse de Lisieux. Et voilà, c'est un des textes, c'est toujours les plus beaux, ouais, c'est ça, hein, les plus magnifiques. Et chacun d'entre nous, vous voyez, quelque part, on doit trouver notre place dans l'Église. Quelle est ma place dans l'Église? Ben, vous, je pense qu'une partie de votre place dans l'Église, c'est aussi comme journaliste chrétienne à RCF, quoi.
Tout à fait.
Et chacun d'entre nous trouver sa place. Et quand on l'a trouvée, ben, il y a une vraie paix intérieure, il y a une vraie joie, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on appelle un travail de discernement. Alors, paragraphe 40. Le pape commente, ce n'est pas le cœur d'une église triomphaliste, c'est le cœur d'une église aimante, humble et miséricordieuse. Thérèse ne se met jamais au-dessus des autres, mais à la dernière place avec le Fils de Dieu, qui pour nous a pris la condition de serviteur. On l'a encore vu hier soir dans la messe du jeudi saint, avec le lavement des pieds. Une telle découverte, dit le pape, du cœur de l'église est aussi une grande lumière pour nous aujourd'hui, afin de ne pas nous scandaliser des limites et des faiblesses de l'institution ecclésiastique, marquée par des obscurités ou des péchés. Et entrait dans son cœur brûlant d'amour, qui s'est embrasé le jour de la Pentecôte par le don de l'Esprit-Saint. Vous voyez, tout ça me fait penser, tout à l'heure on parlait de l'école de la prière qui va avoir lieu à Rosan le 8 avril. Moi je crois vraiment que nos monastères, hein, en particulier nos monastères contemplatifs, et ici on est dans un ancien monastère contemplatif, hein, les Sœurs du Saint-Cœur, là les bénédictines de Rosan, eh bien ce sont des lieux où le cœur de l'Église bat, des lieux d'amour, quoi, vous voyez. Et je crois que si nos moniales arrêtaient de prier, eh bien, nos prêtres pourraient plus être en mission, ou nos diacres pourraient plus être en mission, ou nos équipes dans les paroisses ne pourraient plus être en mission, toutes les équipes de laïcs, voyez. Et donc, c'est une vraie mission ecclésiale qu'elles ont, et je crois que toutes les moines et toutes les moniales peuvent dire dans le cœur de l'Église, je serai l'amour, quoi. Et je pense que c'est vraiment ce qui se vit à Rosan, qui est une très très belle abbaye, quoi. Encore 2 minutes, je regarde l'horloge. Là. Après, il parle de l'image que l'on connaît d'une pluie de roses. Oui. Une pluie de roses chez Thérèse. Hein. Sainte Thérèse dit, elle avait le désir d'aller au ciel. J'avais alors de grandes épreuves intérieures de toutes sortes, jusqu'à me demander parfois s'il y avait un ciel. Ouais, elle a connu ce qu'on appelle des nuits intérieures. Hein. À un moment, elle dit, lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je n'en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. C'est beau ça. Que se passait-il? Elle entendait l'appel de Dieu à mettre le feu au cœur de l'Église puisqu'elle ne rêvait à son propre bonheur. Et le pape dit, ça lui a permis de passer d'un fervent désir du ciel à un désir ardent et continu du bien de tous. Et alors elle écrit dans une de ses dernières lettres, « Je compte bien ne pas rester inactive au ciel. Mon désir est de travailler encore pour l'Église. » et les âmes. Et à la même période, elle dit plus directement, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Magnifique, ça.
Quand je vous entends dire c'est magnifique, oui, c'est beau, ça. C'est ce qui vous anime aussi, de redécouvrir ces textes, parce que vous les connaissez.
Ah, je les ai connus, je les ai étudiés, je les ai lus, oui. J'ai eu des cours, même sur Sainte-Thérèse, etc. J'ai beaucoup aimé. Mais à chaque fois, c'est toujours émouvant de relire ces textes, hein. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Notre mission, elle ne s'arrête pas ici, elle sera aussi là-haut. Et on continuera à faire du bien sur cette terre.
Monseigneur, belle fête de Pâques.
Merci, joyeuse Pâques à tous.
À chacun des auditeurs. À bientôt.
Merci. Au revoir.